Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Travail à la Carte qui explore les différentes façons de travailler. Je suis Svetlana Baranov et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Alefida qui va nous parler d'expatriation et de la façon de travailler aux Pays-Bas. Bienvenue Sarah.
Bonjour Svetlana.
Alors la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te plaît comment tu t'es retrouvée aux Pays-Bas ?
Alors, comment je me suis retrouvée aux Pays-Bas, c'est une histoire qui est très très classique. En 2007, on était en région parisienne avec mon conjoint et nos enfants. Et on en avait un peu ras-le-bol en fait de la région parisienne, du stress, la vie à toute vitesse, de ne pas avoir le temps de faire ce qu'on avait envie de faire, etc. Et à ce moment-là, mon conjoint a eu une opportunité d'aller travailler quelque part en Europe du Nord. Et j'avais dans l'idée de lancer une activité de consulting auprès d'entreprises françaises et que autant c'est facile de prendre le Thalys entre Amsterdam et Paris pour aller faire une mission de 2-3 jours en France, autant dès que tu dois prendre l'avion, ça devient une autre organisation, d'autres coûts, etc. Donc en gros, Amsterdam, c'était un peu la situation idéale. Et je suis venue visiter Amsterdam avec les enfants, mon conjoint était déjà en poste, et ça m'a semblé une ville vraiment agréable pour vivre en famille, et on n'a pas été déçus en fait, pour la vie de famille c'était vraiment, vraiment ce dont on avait envie. Quoi.
En fait vous étiez quelque part des précurseurs puisque tu parles de 2007, et c'est vrai qu'en 2020 je pense que beaucoup de personnes ont eu une réflexion similaire. Et est-ce qu'il t'est arrivé de regretter parfois ce choix ?
J'ai jamais regretté, ce qui ne veut pas dire que ça a toujours été facile en fait. J'ai jamais regretté la décision d'être venue aux Pays-Bas. On n'a aucune envie de rentrer en France, ni les enfants ni moi. Alors mon conjoint parfois nous dit ouais éventuellement peut-être. Et en fait nous on lui dit ben non, moi j'ai créé mon activité ici, j'ai créé mon réseau ici, j'ai pas envie d'y renoncer. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. C'est-à-dire que quand on est arrivé aux Pays-Bas, bon, d'abord, on a eu pas mal de déboires quand on est arrivé le jour même du déménagement et par la suite. Donc ça a été pesant. Les premiers mois, ça a été épuisant pour moi, en fait. Puis après, il y a des moments comme partout, quand tu t'expatries, surtout quand c'est la première fois, que tu n'as pas encore les bons réflexes au réseau et tout. Il y a des moments qui sont difficiles en termes de solitude, en termes de comment se créer un réseau amical, enfin voilà, de soutien et tout. Mais une fois que tout ça s'est mis en place, il y avait plus de questions. Et même au début où c'était difficile, il n'y avait pas de questions pour moi de revenir en arrière et de retourner en région parisienne, en fait.
Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on s'y prend pour préparer l'arrivée dans un nouveau pays ?
Ben déjà, se dire, c'est pas parce que le pays est proche géographiquement que c'est la France en plus petit, pour parler des Pays-Bas. La culture néerlandaise est très différente de la culture française, que ce soit dans les relations entre les gens, que ce soit en termes de vie au quotidien. Et ça, il faut l'appréhender parce que sinon, on est surpris par beaucoup de choses et on se retrouve un peu démunis par des choses qui apparaissent être des détails mais qui, au quotidien, en sont pas forcément. Par exemple, ok, tu sais que tout le monde à Amsterdam fait du vélo, mais t'as pas d'idée de ce que ça veut dire faire du vélo à Amsterdam. Et faire du vélo à Amsterdam, c'est pas faire du vélo n'importe où ailleurs dans le monde. Il faut aller vite, comprendre rapidement comment ça fonctionne. Il faut pas être impressionné par les flots de vélos et de voitures qui arrivent dans tous les sens. Encore une fois, ça semble être un détail. Et finalement, tu te rends compte que si tout le monde autour de toi se déplace en vélo et que toi, tu prends le tram ou le métro, tu perds un temps infini et que c'est aussi bien de s'habituer à se déplacer comme tout le monde. Ça peut être le système de santé est extrêmement différent du système français. Encore une fois, si tu sais pas, tu comprends pas comment ça fonctionne, tu comprends pas pourquoi quand tu vas chez le médecin et que t'as pris rendez-vous pour un truc et que tu veux lui poser une deuxième question, il te dit ah bah non, si c'est deux trucs, c'est un deuxième rendez-vous. Tu comprends pas pourquoi la secrétaire médicale fait barrage et te demande de décrire soigneusement tous tes symptômes avant de savoir si t'as le droit d'avoir un rendez-vous avec le médecin. C'est des choses que t'apprends au fur et à mesure et que si tu le sais en amont, c'est plus simple. Donc, si je devais donner un seul conseil, que je donne d'ailleurs régulièrement aux gens qui me demandent comment on fait pour venir aux Pays-Bas, c'est ne pas présupposer qu'on sait et se renseigner, poser des questions. Il y a des communautés qui existent, des communautés françaises ou francophones qui existent dans tous les pays du monde, je pense. Il suffit de les repérer et de poser des questions et pas avoir peur de poser des questions bêtes et de regarder ce que les gens répondent, en fait.
Et avant le podcast, tu me disais que la façon de travailler aux Pays-Bas est aussi complètement différente. Quelles sont pour toi les principales différences ?
Alors, c'est très, très culturel et ça se manifeste dans différents aspects de la culture du travail aux Pays-Bas. Je pense que Ce qui choque le plus les Français, on va dire ça comme ça, c'est les rapports hiérarchiques. Les Pays-Bas, les entreprises néerlandaises et du coup souvent les entreprises internationales quand elles sont implantées aux Pays-Bas ont des structures hiérarchiques qui sont bien plus plates qu'en France. Ça, c'est une première chose. Il n'y a pas 46 niveaux de hiérarchie, de management, etc. Et même quand il y a une hiérarchie, quand il y a quelqu'un qui s'appelle manager, etc., le manager est plus souvent qu'en France un membre de l'équipe à part entière. C'est-à-dire que oui, il a un rôle d'organisation, oui, il a un rôle pour donner une direction, pour poser les problèmes, organiser un petit peu le travail, etc. Mais sa parole n'a quasiment pas plus de valeur que la parole de n'importe quel autre membre de l'équipe. Donc, l'histoire qu'on raconte souvent, c'est un manager français qui arrive pour manager son équipe aux Pays-Bas et qui ne comprend pas comment c'est possible qu'une stagiaire qui a 15 ans de moins que lui arrive dans son bureau en n'ayant pas frappé à la porte et lui dise « je ne suis pas d'accord avec ton mode d'organisation ». Donc ça, ça peut arriver. Ça peut arriver que lors d'une réunion, le manager arrive en déployant sa stratégie et que tout le monde dans l'équipe lui dise, ou une seule personne dans l'équipe lui dise « non mais en fait, un, on ne comprend rien à ce que tu as proposé et deux, de ce qu'on comprend, on n'est pas du tout d'accord avec ce que tu veux mettre en place ». Donc ça, les rapports hiérarchiques sont très différents. Quand j'en parle comme ça, que je donne des exemples, ça peut paraître caricatural. Ça ne l'est pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discussions très ouvertes avec son manager. Ça ne veut pas dire que c'est partout comme ça, parce que c'est toujours un peu... je fais un aparté, mais c'est toujours un peu un problème quand on compare deux cultures, c'est qu'on a tendance à être vraiment dans les opposés ou dans les choses très caricaturales. Et c'est pas que caricatural. Aux Pays-Bas, chacun a le droit de prendre la parole, chacun a le droit de dire ce qu'il pense dans une situation de travail et en dehors. Et l'idée est d'arriver à un consensus, à un compromis. Et l'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un qui décide pour tout le monde. Et ça marche comme ça dans les entreprises et ça marche comme ça dans la société. Et ça veut aussi dire que si on estime avoir droit à quelque chose, il faut le demander. Parce que personne viendra te dire « est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que tu as besoin que je t'aide ? Est-ce que tu as besoin que je te soutienne ? Est-ce que tu as envie, par exemple, dans l'entreprise, ça va être « est-ce que personne va venir te voir en te disant « est-ce que tu as envie de travailler sur ce projet ?» Si tu estimes que tu es la bonne personne pour travailler sur le projet et que tu as envie de le faire, et ben tu dis « moi, je veux être investi dans ce projet ». Donc voilà, il faut dire ce qu'on pense, dire ce dont on a besoin. Il n'y a pas d'implicite, les gens ne vont pas deviner ce que tu veux, ils ne vont pas deviner ce que tu penses, ça c'est très culturel. La communication se fait de façon beaucoup plus directe, ce qui est parfois très choquant pour les Français qui ont l'impression que les Néerlandais sont mal élevés et sont trop directs dans la façon de s'exprimer. En fait, c'est un mode de communication qui est différent, qui est qu'on dit les choses telles qu'on les pense et le plus clairement possible et on ne comprend pas l'implicite. Donc, quand on parle avec un Néerlandais, il ne faut pas penser... ou avec des Néerlandais, il ne faut pas penser que ce qui est évident pour nous est évident pour eux.
Et tu aurais un exemple de ça ?
Il faut dire les choses clairement. Par exemple, moi j'ai une amie qui est extrêmement bien intégrée aux Pays-Bas, qui parle totalement couramment néerlandais, qui est mariée à un Néerlandais, etc. Un jour, elle répondait à un recruteur et elle voulait lui dire qu'elle n'allait pas prendre le poste qu'il lui proposait. Et au lieu de lui dire « je ne prends pas le poste, voilà pourquoi », elle a d'abord donné toutes les explications et à aucun moment, elle a dit « je ne prends pas le poste ». Et à la fin de son quart d'heure d'explication, le recruteur lui a dit « mais alors en fait, tu le prends ou tu ne le prends pas le poste ?» Et pour elle, c'était évident, elle avait donné toutes les raisons, c'était clair, il n'y avait pas de problème, c'était évident, c'était limpide. Et pour lui, pas du tout, en fait. Elle n'avait pas répondu à la question. Et la question, c'était « est-ce que tu prends le poste ou pas ?» Et la réponse était « non, je ne le prends pas ».
Et en termes d'horaire et de rythme de travail, quelles sont les différences ?
Alors, c'est différent, mais la vérité est que ça évolue. Et la vérité, c'est aussi que c'est très différent selon que tu es dans une entreprise 100% néerlandaise ou dans une entreprise internationale, dans une grande ville versus une ville de taille moyenne, etc. Mais en effet, alors d'abord, il y a un truc qui est imparable aux Pays-Bas, c'est que les Néerlandais... prennent leur dîner aux alentours de 18h, 18h30. Donc à partir du moment où tu dois être autour de la table à 18h, 18h30, forcément tu quittes ton travail avant. Donc à 17h30 par exemple, moi je travaille en tant que salarié, je travaille à la CCI France Pays-Bas et on est dans un immeuble où on partage les bureaux avec d'autres sociétés qui sont néerlandaises. bah, quand on part à 5h30 du bureau, les bureaux des autres sociétés sont quasiment vides. Il reste 3-4 voitures sur le parking. Enfin, voilà, c'est, donc effectivement, ils partent plutôt du travail le soir et c'est normal. Et quelqu'un qui fait des heures supplémentaires de façon régulière va être vu comme quelqu'un qui a soit un problème d'organisation, soit qui n'a pas osé dire « j'ai trop de travail, il faut qu'on partage le travail ». Mais effectivement, ils vont partir plus tôt le soir. La famille a de l'importance, les enfants ont de l'importance. Donc, si on doit s'absenter parce qu'on doit s'occuper de ses enfants, ça ne pose pas de problème. On s'absente, on dit « je suis désolée, mon gamin a eu un problème à l'école, il faut que j'y aille, c'est tout à fait normal ». Et alors aussi, les horaires, donc ils sont liés au mode de vie des Néerlandais, ils sont aussi liés au fait que l'école aux Pays-Bas termine à 15h30 et que c'est pas entré dans les mœurs, pour plein de raisons, de forcément confier ses enfants à une nounou à partir de 15h30. Donc ça veut dire qu'à 15h30, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un des deux parents, majoritairement les femmes, mais il y a aussi des hommes qui le font, qui se libèrent pour aller chercher les enfants. Donc ça explique aussi le taux élevé de travail à temps partiel aux Pays-Bas par rapport au reste de l'Europe. On est quasiment les champions, je pense, en Europe du temps partiel, puisque 75% des femmes travaillent à temps partiel et 50% des salariés, hommes et femmes mélangés.
C'est vrai que tu donnes envie avec ton témoignage. Quelles seraient les difficultés qu'on peut avoir tout de même quand on est expatrié ?
Il y a des choses qui sont pas si simples que ça. S'intégrer, avoir développé un réseau d'amis néerlandais, par exemple, c'est pas toujours facile. Et je sais qu'en disant ça, il y a plein de gens qui vont me dire « mais c'est pas vrai, quand on veut, on peut, j'ai plein d'amis néerlandais, etc. etc. » Ok, j'entends. Moi, je pense que pour la majorité des expatriés, se créer un réseau néerlandais, d'amis néerlandais, c'est pas si facile que ça. Après, effectivement, s'habituer à la vie, c'est plutôt facile. Les inconvénients, ça va être que ben, la langue néerlandaise, c'est quand même une langue qui est compliquée. Et avant de gérer toute sa vie en néerlandais, il faut vraiment y passer du temps. Et puis sinon, je vois pas trop d'inconvénients en fait à être aux Pays-Bas. J'avoue que depuis 2007, il y a aucun moment où je me suis dit c'est insupportable. Je voudrais rentrer en France ou je peux me dire j'ai envie d'aller ailleurs, mais c'est plus par curiosité d'un autre pays que par manque d'envie de rester ici en fait.
Et par rapport à ce que tu disais sur le monde du travail, on pourrait avoir l'impression que tout le monde est épanoui au travail aux Pays-Bas. Est-ce que c'est le cas?
Alors, ça, c'est une question qui est difficile parce que là, récemment, j'ai vu les taux de burn-out aux Pays-Bas qui ont explosé. Là, on estime que dans les mois qui viennent, voire dans l'année qui vient, 56% des salariés néerlandais sont à risque de burn-out, alors que c'est un pays dans lequel le bien-être au travail est vu comme étant quelque chose de facile à atteindre. Comparé à la France, on a l'impression que c'est vraiment très compliqué d'atteindre le bien-être au travail. Pour autant, il faut pas non plus enjoliver les choses. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude d'un rythme de travail et d'une vie équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle, toute tension sur ta vie professionnelle ou un moment de stress comme là avec le Covid, avec les confinements, etc., prennent aussi une dimension hyper importante. Et pour les Néerlandais aujourd'hui, clairement, il y a de plus en plus de plaintes de stress au travail, de risque de burn-out, d'épuisement, de perte de sens, etc., etc. Après, la différence avec la France, alors je ne sais pas si c'est la différence, mais j'avais discuté en arrivant aux Pays-Bas avec un consultant sociologue néerlandais, et il avait, je trouve, très bien résumé la différence entre les deux pays, parce qu'il m'avait dit, on dit que les Français ont besoin de performer pour être heureux au travail, alors que les Néerlandais ont besoin d'être heureux pour performer, toujours au travail. Et ça fait vraiment la différence dans le rapport au travail, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, cette citation est à prendre avec plein de pincettes et de guillemets, et tout ce qu'on veut, mais... l'idée qui sous-tend la relation qu'on a au travail entre les Pays-Bas et la France est assez bien résumée, je trouve, dans le sens où on va imaginer les Français vouloir réussir pour être heureux, alors que les Néerlandais vont avoir besoin d'être heureux pour réussir et avoir le sentiment qu'ils ont réussi. Et d'ailleurs, le rapport à la réussite et à l'échec est très différent entre les deux pays. Aux Pays-Bas, on peut, par exemple, je vais donner un exemple parce que c'est quelque chose qui me vient souvent dans les conversations que je peux avoir avec les expatriés, on peut créer son entreprise, se planter, et on n'est pas vu comme étant quelqu'un qui a échoué. On est vu comme quelqu'un qui a essayé. Je pense que le rapport à l'échec en France est encore aujourd'hui très différent de ça, que pour beaucoup de Français, le fait d'échouer, c'est quelque chose qui est comme une tâche dans leur parcours. Alors que pour les Néerlandais, le fait d'échouer, c'est juste l'indice que tu as essayé quelque chose. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as appris ? À quoi ça va te servir maintenant dans ta vie, quoi ?
Et donc, toi, aujourd'hui, aux Pays-Bas, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, moi, aujourd'hui, aux Pays-Bas, j'ai trois activités principales. Donc, j'ai une activité depuis plusieurs années en tant que consultante de carrière. Ça, c'est mon activité en tant qu'indépendante. Depuis 3 ans, enfin, ça fera 3 ans en mars, je suis aussi salariée à temps partiel de la Chambre de commerce franco-néerlandaise. Et là, je suis recruteuse à la Chambre de commerce France-Pays-Bas. Et j'ai une activité bénévole depuis aussi un certain nombre d'années où je suis présidente d'une fondation qui s'appelle Avenir Emploi Pays-Bas et qui a pour vocation d'accompagner les Français dans leur insertion dans le monde du travail néerlandais. Et cette fondation a un pilier emploi, on aide les gens à trouver du travail, ou en tout cas on essaie de les soutenir dans leurs recherches, et un pilier entrepreneuriat, j'ai créé une communauté de solo entrepreneurs français ou francophones aux Pays-Bas, dans laquelle nous sommes plus de 1300 aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, tu cumules 3 activités en même temps, et je sais que dans ta vie, tu me disais que tu avais changé 6 fois de métier. C'est pas trop compliqué pour toi de recommencer à chaque fois à zéro et de te lancer dans de nouvelles activités ?
Alors en fait, ça a tellement jamais été une question pour moi que j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à comprendre, mais beaucoup de mes clients viennent me voir en disant « Ouais, mais en fait, c'est trop tard pour moi pour changer » ou alors « Je suis trop vieille pour changer » et tout. Et je suis là, mais je comprends même pas le concept en fait. Je trouve que j'ai fait un article sur LinkedIn qui commençait, je crois que j'avais commencé par « J'ai pas eu le mémo » qui disait que les gens de ma génération avaient un seul métier pour la vie. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça n'a jamais été une question. Ça a toujours été l'occasion se présente, bah voilà, l'occasion se présente et je la saisis parce que ça m'amuse, que je suis curieuse d'apprendre des trucs nouveaux, que je suis curieuse d'apprendre de toute façon. Et ouais, en fait, c'est plutôt ça, voilà. Ça a jamais été un plan et ça a jamais été une question, ça a jamais été un problème. Ce qui fait que quand mes clients me contactent, et qu'ils me disent, je sais pas comment faire, j'ai peur et tout, plutôt que de leur dire, t'as pas de raison d'avoir peur, je leur dis, écoute, voilà moi comment j'ai fait, ça s'est bien passé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je ne te conseille pas de le faire sans réfléchir. Ça, c'est jamais un conseil que j'ai donné à personne. Moi, j'avais la chance d'avoir, suffisamment de sécurité autour de moi pour me dire je peux le faire et c'est pas grave si ça fonctionne pas. Donc je vais pas conseiller à quelqu'un qui est en difficulté financière de prendre des risques absurdes. Par contre, j'ai développé un plan pour accompagner les gens dans ce process là qui, j'espère, leur donne confiance et les rassure suffisamment pour qu'ils se disent ok, je suis pas en train de risquer ma vie en fait. Et surtout, le truc, c'est oui, mais imaginons que je change et que ce soit pas le boulot de mes rêves. Je dis, bah, c'est pas grave, en fait. Tu vas le faire pendant un temps donné et puis après, tu iras voir ailleurs. Mais je suis assez sûre, comme tu le disais, que c'est une compétence, en fait. La capacité de changer, c'est réellement une compétence. La seule différence, en tout cas, ce qui me démarque peut-être des gens qui changent aujourd'hui, c'est que je suis pas d'une génération où ça se faisait, en fait. Je suis d'une génération, enfin moi, les gens que je connaissais quand j'étais au lycée, ils sont rentrés dans des carrières qu'ils ont encore aujourd'hui, en fait. Et c'est ça qui fait que je suis différente des gens de ma génération, mais je suis pas différente de quelqu'un qui a 25 ans et qui se dit, bah, je vais essayer ça pendant 2 ans ou 3 ans, et puis si j'en ai pas envie, si ça m'intéresse plus, j'irai voir ailleurs.
Alors c'est vrai que moi, je fonctionne entièrement comme toi, mais je dirais que sur les générations, en ce qui concerne ma génération, la principale différence, c'est que quelque part, on a le droit de le faire. C'est un peu plus accepté. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait au final. Il y a des gens qui restent dans un job durant plusieurs années, ça leur convient très bien.
Quand je parle de la différence de génération, ce n'est pas pour dire que tout le monde dans une génération agit d'une certaine façon, mais c'est pour dire qu'on le voit davantage chez des gens qui sont plus jeunes que moi que chez des gens qui ont mon âge. Après, c'est ni bien ni pas bien, je veux dire. Il y a des gens qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de se projeter sur le long terme. Et s'ils sont heureux en passant 20 ans dans la même boîte, grand bien leur fasse. Il y a des gens qui ont besoin de changer, qui ont envie d'avoir des expériences différentes, grand bien leur fasse. C'est vraiment pas une injonction, c'est juste, ça existe. Si on a envie d'essayer, autant essayer. Après, moi, je pense que l'expérience qu'on a tous eue avec le Covid, c'est une expérience où on s'est rendu compte qu'il fallait être capable de changer du jour au lendemain. Il fallait être capable de s'adapter du jour au lendemain. Donc, clairement, c'est une compétence. Si on a envie de la développer, si on sent que c'est le bon moment pour la développer, il faut en profiter. Parce que très probablement, on aura à vivre d'autres changements pendant notre vie. Et le plus on est apte à appréhender ce changement, le plus confortable ça sera pour nous.
Alors merci beaucoup Sarah d'avoir partagé ton témoignage et tes expériences. Et pour terminer, quel conseil tu donnerais pour s'épanouir au travail ?
De se connaître, de savoir comment on fonctionne le mieux en fait. Et pas toujours, et se dire voilà, moi j'aime travailler, j'aime avoir ce type d'activité, j'aime travailler avec ce type de personnalité, j'aime travailler dans ce type d'organisation. Et je vais chercher jusqu'à ce que je trouve l'endroit où je me sens bien et où je vais pouvoir travailler comme j'en ai envie. Et c'est donc en fait le conseil, c'est se connaître.
C'est une excellente conclusion parce que c'est exactement la mission que je me donne avec le travail à la carte, c'est d'accompagner les personnes à mieux se connaître pour mieux travailler. Je te remercie Sarah d'avoir passé ce moment avec nous. Vous pouvez retrouver son profil et ses articles passionnants sur LinkedIn. Donc c'est Sarah Elefida. J'espère que cet épisode vous a donné des envies d'ailleurs, ou en tout cas peut-être le courage de se lancer. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le noter 5 étoiles et le partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.